Le billet politique, Stéphane Robert, sénatorial Gérard Larcher dans un fauteuil.
Le président du Sénat, Gérard Larcher, a certainement passé une très bonne nuit. Il n'a aucune inquiétude à avoir pour sa réélection jeudi 1er octobre prochain. Les élections sénatoriales hier, à l'occasion desquelles on renouvelait la moitié du Sénat, ont conforté et même renforcé la majorité de droite au Sénat. Le groupe Les Républicains, premier groupe du Sénat qui comptait jusqu'ici 143 parlementaires, va semble-t-il s'étoffer de quelques sénateurs supplémentaires. Tout comme ses alliés de l'Union centriste, 51 sénateurs avant le scrutin, on devrait en ajouter 5, 6, peut-être 8, affirmait hier soir son président Hervé Marseille. Tout ça n'est pas encore complètement arrêté. Entre la droite et le centre, des discussions auront lieu dans les jours à venir pour déterminer dans quel groupe s'inscrit tel ou tel sénateur. Au Palais du Luxembourg, c'est comme au rugby, il y a une troisième mi-temps et les tractations, comme les sénateurs, vont bon train. Mais ces ajustements se font à la marge et ça ne change pas les équilibres de la Haute Assemblée. La droite et le centre, on vient de le voir, vont rester largement majoritaires avec plus de 200 sénateurs sur 348. Le deuxième groupe, le groupe socialiste, perd quelques éléments, mais devrait en conserver un peu plus d'une soixantaine contre 71 jusqu'ici. La République En Marche garde une vingtaine de sièges. Les communistes n'étaient pas menacés et les radicaux devraient également sauver leur groupe. La seule petite nouveauté, c'est la réapparition d'un groupe écologiste qui avait brièvement existé de 2012 à 2017. Les Verts ont décroché hier 6 postes de sénateurs, comme ils étaient déjà 4 sur les bancs du Sénat, ça fait 10, ce qui correspond au seuil minimum requis pour la création d'un groupe. Mais hors ce petit changement, cette petite évolution, on constate encore une fois une très grande stabilité des équilibres politiques.
À quoi est due cette stabilité, Stéphane ?
Déjà au fait que les élections sénatoriales sont une transcription des municipales. Ce sont de grands électeurs qui élisent les sénateurs, on en compte 1000, 2000, 3000 selon les départements, et ils sont à 95% des maires et des conseillers municipaux. Or, dernière municipale, il y a quelques mois, contrairement à ce qui a été claironné partout, il n'y a pas eu de vague en faveur des écologistes. On peut tout juste parler de vaguelette, mais l'océan n'a pas bougé et les gros poissons qui frayent au fond n'ont pas senti la risée. Les Verts ont gagné une dizaine de grandes villes, très emblématiques certes, mais avec un vote qui s'est essentiellement concentré dans les centres-villes, dans les communes périphériques et dans les autres communes plus éloignées des agglomérations. La droite et la gauche ont, dans la plupart des cas, conserver leur bastion. Et c'est précisément ce qu'on voit avec ces élections sénatoriales qui sont la photographie de ce qui s'est réellement passé au municipal. Il y a une petite progression du vote écologiste dans le cadre d'une alliance avec les autres forces de gauche et qui a permis des victoires très visibles mais très localisées. La deuxième explication à cette grande stabilité est que ce ne sont pas les Français qui votent mais des élus, les grands électeurs. Et dans la plupart des cas, ils attendent des sénateurs qu'ils sachent faire fonctionner les rouages institutionnels, qu'ils fassent connaître à Paris les problématiques auxquelles ils sont confrontés dans leur commune, ils veulent pouvoir dire « Monsieur le sénateur, dites au ministre, il y a trop de normes, on ne peut pas les appliquer ». Et pour ça, ces élus locaux élisent dans la plupart des cas des responsables politiques expérimentés dont ils espèrent qu'ils seront des relais entre eux, les élus locaux qui administrent localement les territoires et les responsables politiques nationaux. C'est pour ça que bien souvent sont élus des présidents de départements, d'anciens députés et qu'il y a une forte reconduction des sénateurs sortants. Le scrutin d'hier n'a pas échappé à la règle et c'est la raison pour laquelle les formations politiques traditionnelles sont particulièrement bien représentées.
Pourtant, La République En Marche ne s'est pas effondrée.
Non, c'est vrai. Mais c'est aussi avec cette grille de lecture qu'il faut interpréter les résultats de La République En Marche. Le groupe LREM au Sénat ne s'est pas effondré, effectivement, malgré une défaite cinglante au municipal et conserve une vingtaine de sièges. Et c'est vraisemblablement dû au fait que les candidats qui se présentaient sous les couleurs de la majorité présidentielle sont des personnalités politiques aguerries, très connues localement. Le président du groupe, François Patriat, en Côte d'Or par exemple, réélu alors qu'on lui prédisait une déroute. Le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, réélu lui aussi dans Lyon, et le ministre de l'Outre-mer Sébastien Lecornu, élu dans l'heure. Tous les trois sont des élus qui ont eu une vie politique avant de rejoindre Emmanuel Macron, qui sont implantés dans des territoires ruraux et qui ont conservé leur réseau. Mais hormis ces quelques exemples, le scrutin d'hier a consacré le fait que le parti d'Emmanuel Macron n'a pas réussi à s'implanter localement. LREM n'a pas progressé, pas plus que le Rassemblement National qui a réussi péniblement à sauver son unique siège au Sénat avec Stéphane Ravier. Et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon n'est pas mieux lotie. Au Palais du Luxembourg, elle n'existe pas. Au bout du compte, ces élections sénatoriales montrent que les formations politiques traditionnelles n'ont pas disparu, mais elles soulignent un divorce entre ces partis en perte de vitesse au plan national qui restent très implantés localement et les formations politiques qui existent nationalement au premier plan.
Merci Stéphane Robert de nous avoir parlé de ce qui ne change pas.